le besoin de réveil. Psaume 119, verset 25. On va le lire, psaume 119, verset 25, ça dit « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Donc, on est content de pouvoir voir ce verset ce matin, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, comme le verset le dit même, c'est ta parole qui vivifie. C'est ta parole dont nous avons besoin, Seigneur Dieu. Seigneur, aide-moi de bien proclamer droitement ta parole, Seigneur Dieu. Et on te prie que les cœurs puissent avoir le souci, puissent avoir le, recevoir bien ce souci que tu offres, Seigneur Dieu, de l'exactitude de ces choses. Seigneur, que ce que je dis puisse être bien conforme à ta parole, Seigneur Dieu. C'est ta parole la vérité. Tous les cœurs qui ont le besoin, que ce soit pour le salut, que ce soit pour être vivifié dans sa marche chrétienne, on te prie dans ces choses, nom de Jésus. Amen. On va voir ce matin, il y a la tendance à la mort, comme il dit. Mon âme tend à la poussière, mon âme est attachée à la poussière. On va voir le besoin de la prière, parce que là c'est une prière qu'il fait. Rends-moi! C'est bien. Et on va voir l'élément clé de la parole de Dieu. Il dit, rends-moi la vie selon ta parole. La tendance d'abord à la mort, à la poussière, comme il dit. Vous savez, Dieu permet qu'il y ait beaucoup de choses dans cette vie qui nous illustrent les réalités spirituelles. Et un, c'est la somnolence. Hein? On a les yeux lourds à un moment donné. Il y a la misère. Moi, si je conduis un nombre de kilomètres, à un moment donné, mes yeux deviennent lourds. Si je m'assois et que j'essaie d'écouter, souvent j'essaie d'écouter, mais mes yeux commencent à devenir lourds. Je rigole que Dieu ait eu pitié de moi en m'appelant à prêcher, comme ça, je n'aurais moins de tendance de m'endormir. Donc je comprends, même si on est très intéressé, parfois la somnolence vient. C'est la même chose avec la mort. La mort, c'est à travers toute cette vie qu'on voit tout tend à la mort, tout tend au dépérissement. Les arbres tendent à vieillir, nous on vieillit, tout tend à la mort. Eh bien, c'est la même chose aussi dans la marche spirituelle. Mais d'abord, s'il parle ici, si le psalmiste ici, il dit « Mon âme tend à la mort, mon âme est attachée à la poussière. » Il y a une différence entre la vie et la mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tendance à la mort, être attaché à la poussière, c'est qu'il y a vie. Il y a la vie. La vie a la tendance à dépérir, mais il y a vie. C'est pas la même chose que la mort, tout simplement. Celui qui est mort spirituel, il n'aurait pas lieu à écrire ceci. Mon âme tend à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Parce qu'il est mort complètement. Il faut d'abord être né de nouveau, il faut d'abord être racheté, il faut d'abord vivre pour connaître cette tendance dont il parle. Mon âme est attachée à la mort, et mon âme tend à la mort. Ceux qui n'ont jamais été réconciliés avec Dieu, qui ne sont jamais devenus enfants de Dieu, qui n'ont jamais eu le pardon de leurs péchés, qui ne sont jamais passés de la mort à la vie, ils ne sont jamais passés de la puissance de Satan à Dieu, comme Actes 26, 18 dit. Ils ne sont jamais passés des ténèbres à la lumière. Eh bien, ce verset ne s'applique pas à vous. Ça ne s'adresse pas à vous ce matin. Vous pouvez en apprendre quelque chose. Vous avez besoin d'être rendu vivant. Carrément, totalement, pour une première fois. Ça, c'est par la foi en Jésus-Christ, de se reconnaître, on est complètement mort. On est complètement séparé de Dieu totalement. Là, on parle, ici, le psalmiste, il dit, mon âme est attachée à la parole, à la mort. J'ai cette tendance toujours vers la mort. J'ai cette tendance au sommeil, pour utiliser une autre illustration que la Bible développe. Là, on a besoin d'être renouvelé. On a besoin d'être réveillé. On a besoin d'être fortifié, d'être vivifié. Vous savez, il y a une différence quand quelqu'un a été blessé ou quelque chose, et là, on recheck son pouls. Hein. Là, tout de suite, il y a un accident d'automobile ou quelque chose, on vérifie, est-ce qu'il y a encore la vie? Si elle a la vie, elle peut être restaurée. Et s'il est mort, on ne peut plus le ramener, on ne peut plus... Et donc, Dieu ici nous montre vraiment d'abord le besoin d'être né de nouveau si on n'est pas encore né de nouveau. C'est plaisant. Vous savez, le premier cri qui est agréable à entendre, c'est après qu'il y a naissance. Parce que là, ça prouve qu'il y a vie. Le bébé cherche sa respiration et la vie. Et c'est pour ça que c'est un cri qui est agréable à entendre, parce que la preuve de la vie. Eh bien, justement, la vie, c'est ce qu'on a besoin, parce que ce monde, à cause du péché, d'abord est dans la mort, et il a besoin d'être rendu vivant. Éphésiens chapitre 2 parle de cette mort-là. Et il parle de la conversion des Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, je vous invite à y tourner pour lire Éphésiens chapitre 2. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ils étaient complètement séparés de Dieu, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est Satan, qui est aussi l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul s'inclut, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, on était morts dans nos péchés, Paul dit. L'apôtre Paul, avant de se convertir, il était mort, il n'y avait pas de pouls spirituel. Il était mort, il était un cadavre, spirituellement, il était un cadavre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est de cette vie-là, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, c'est de cette vie-là pour une première fois que vous avez besoin. Ce n'est pas d'être rendu, d'être vivifié, d'être fortifié, c'est d'être ressuscité carrément, point final, pour la première fois. Et quand il y a une première fois, il n'y en a pas une deuxième. Parce qu'on peut, on revient à la vie une fois et on est vivant pour l'éternité. Mais alors de quoi il parle ici? Notre âme tend, mon âme tend à la poussière. Eh bien cette tendance-là qu'on connaît dans ce monde, parce que cette vie, la vieillesse est dans nos corps. Parce que ce monde est corruptible, il est perdu depuis la chute. La mort, c'est comme toute la végétation en Guyane qui finit par étouffer. Ça vient, et constamment le recouper, parce que autrement on se fait envahir. La mort envahit. Et c'est là que la marche chrétienne, le chrétien, celui qui a été rendu vivant avec Christ, il sait que notre tendance naturelle est à la poussière. Et on a besoin d'être vivifié par la parole de Dieu. Rends-moi la vie, rends-moi à la vie selon ta parole. C'est la même chose que la tendance du sel de perdre sa saveur. Matthieu 5, 13 dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne lui sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La tendance du sel de perdre sa saveur et de devenir inutile. Combien d'églises ont été commencées il y a 200 ans avec le temps, de génération en génération? C'est devenu une tradition, c'est devenu des paroles en l'air, c'est devenu des paroles qu'on chante, et le sel a perdu sa saveur. C'est la tendance. Alors, si on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, pour ceux d'entre nous qui professons l'avoir accepté, on doit reconnaître comme le psalmiste. Si on ne fait rien, on va tendre à la poussière. On est attaché à la poussière. Yes. Et on va être non productif. Ça va être une vie vaine. On va ressembler de plus en plus au perdu. Comme Lot. Lot était injuste. Mais par ses choix et tout ça, il est devenu de plus en plus comme les païens. Comme les incrédules. Et son témoignage est devenu comme une risée, une moquerie. Il a averti ces gens, ouais, il faut sortir de la ville, Dieu va la détruire. Là, monsieur mon beau père, tu as choisi Dieu parmi nous. Là, tu dis que ton Dieu, il va détruire la ville. Et Lot avait perdu tout son témoignage, toute sa famille. On doit faire attention. Donc, le besoin de la prière. Le psalmiste dit, mon âme est attachée à la poussière, rends-moi à la vie selon ta parole. C'est une prière. Et Dieu nous dit aussi que sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de voir notre dépendance et donc de venir à lui pour prier. D'être des personnes qui sont désespérées. Et des personnes désespérées, ils plaident. Et quand on reconnaît qu'on ne peut rien sans Dieu, on n'a pas pu se convertir, on n'a pas pu être sauvé sans Dieu, on ne peut pas non plus marcher dans la vie chrétienne sans Dieu. On a besoin de Dieu. Notre âme, naturellement, est attachée à la poussière. Notre âme tend à la poussière. Nos yeux sommeillent naturellement. On a besoin d'avoir ce sens de « Hey Dieu, j'ai besoin de toi ». J'ai eu besoin fondamentalement de toi. J'ai eu besoin de toi pour avoir la vie éternelle. Mais j'ai besoin de toi totalement pour pouvoir marcher, pour t'être agréable. Et pour connaître les fruits. Et pour faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Donc la prière, c'est non seulement quelque chose qu'on est responsable de faire en privé. Matthieu 6, il dit, quand tu pries, ne prie pas au coin de rue. Fais pas tes prières personnelles au coin de la rue pour être vu par tout le monde. Ok, tout le monde, je vais passer du temps dans la prière, tout le monde le voit. Non, fais-le dans ton placard. Il y a un temps de prière personnelle, mais il y a un temps de prière de groupe aussi. Dans Actes, on voit qu'ils s'assemblaient pour prier ensemble. L'Église avait des temps de prière aussi ensemble. Pas pour la question d'être vu, mais chacun, on s'unissait pour prier ensemble. Et sans qu'on prenne le temps de vraiment prier et d'être assoiffé, eh bien, notre âme va tendre à la poussière. Si on ne prend pas le temps de prier, sans prière, aucun réveil. Esdras 1:5, Dieu a réveillé l'esprit. Esdras 1:5, les chefs de famille, les Judas et les Benjamins, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Là, vous allez dire, pasteur Raymond, l'Éternel a réveillé leur esprit. Ils n'ont pas prié. Regardez dans Daniel 9. Et dites-moi pas qu'il y a une prière qui a suscité que Dieu réveille l'esprit. Daniel chapitre 9, un petit peu avant ceci, avant que l'Esprit de Dieu réveille l'esprit du peuple. Donc regardez la prière de Daniel. Daniel était à la fin de l'exil. Et voici ce que Daniel dit. Daniel chapitre 9, verset 5, il dit, « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face. Autrement dit, la honte. À nous la honte. À nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Et parenthèse ici, vous savez, normalement on est dans Jérémie. Là j'ai pris une pause, quelques semaines. Mais dans Jérémie, c'était avant que la grande calamité arrive. Mais vous savez combien chaque semaine on voit un nouvel chapitre où ce que Dieu avertit, et avertit encore, là l'énorme calamité qui arrivait sur Jérusalem, les milliers de morts qu'il y aurait dans la rue, les milliers d'exils qui seraient pris, les murs qui seraient détruits, le temps qui va être mis à plat, les gens qui vont s'entremanger, parce qu'ils vont avoir tellement de désolation dans le siège avant la fin. La calamité, on le voit, il n'en est pas jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem, comme cela est écrit dans le livre de Moïse. Dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui a été fait un nom comme il était aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, Seigneur. Selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous ont entourés. Là, Daniel est en train de prier. Jérusalem est encore complètement mise à plat. C'est encore dans les ruines. Le temple est encore complètement détruit. La honte est encore sur le peuple d'Israël et sur la nation et sur la capitale. Mais là, maintenant, verset 17. Donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions, Seigneur. Écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Dites-moi pas que quelqu'un n'a pas prié pour le réveil. Dites-moi pas qu'il n'y avait pas de prière derrière. Quand Dieu a réveillé l'esprit de ceux qui se sont levés pour bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Dieu, il veut qu'on ait une soif de pouvoir connaître sa force et sa vie, le fruit qu'il veut qu'on produise à travers nous. Et nous, on tend à la mort. On est faible. On tend au sommeil. Vous savez, parfois, il y a des moments, quand je conduis, entre autres, si je suis fatigué, c'est pas la volonté qui fait que je veux m'endormir. Quand, le soir, parfois, on fait un culte familial, où on lit, on chante, on prie ensemble, typiquement, chaque jour, sauf exception. Il y a des fois, le soir, parce que une journée, parfois, les journées plus physiques que d'autres. Voilà. Mais pour s'asseoir, c'est pas parce qu'on ne veut pas. Mais le psalmiste, justement, il sait, Seigneur, c'est pas parce que je ne veux pas, mais j'ai tendance au sommeil, j'ai tendance à la mort. Mais Seigneur, c'est toi, vivifie-moi. selon ta parole. Mais donc, il faut qu'il y ait cette prière. Dans Ésaïe 26, il y a cette soif. Et Dieu veut voir qu'on invoque, qu'on le cherche, qu'on plaide avec lui, qu'on est au bout de nos capacités et on n'est pas capable par nous-mêmes de faire quoi que ce soit. On a besoin de lui. On a besoin de la sève, parce que c'est Jésus qui est le tronc. Nous, on est les branches. Ésaïe 26. Il dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'éternité et la perpétuité, car l'Éternel est l'Éternel, le rocher des siècles. » Mais il continue un peu plus loin. On va lire à partir de verset 11. « Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, ils seront confus. » Verset 12. « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Verset 14. « Ceux qui sont morts ne revivront pas, des hommes ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, tu en as détruit tout souvenir. » Verset 15. « Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. » Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, rétrécissez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Là, on a une soif, le peuple a une soif de voir Dieu agir, Dieu avoir pitié d'eux, parce qu'il y a cette tendance à la mort. Cette tendance à la mort. Dieu, il veut qu'ils se confient en lui, qui est leur source. Regardez dans Romains 13, 11, cette tendance à la mort, cette tendance au sommeil, ça dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Là, il ne parle pas du sommeil total, la mort totale pour les inconvertis. Il parle du sommeil qu'on a tendance à avoir pour ceux d'entre nous qui avons cru. Parce qu'il dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut final, quand Jésus reviendra, nous donnera un corps parfait, un corps qui nous... il est plus proche de nous que le jour qu'on a cru en Jésus. Mais il dit... C'est le temps de se réveiller. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et on regarde la Guyane, il y a une grosse somnolence. Je connais un peu l'historique de l'église biblique baptiste de Saint-Laurent. Je connais aussi l'historique de celle-ci. deux églises baptistes indépendantes qui prêchent l'évangile. Ce n'est pas des foules qui accourent. C'est pas la Pentecôte. C'est pas Antioche, envoyer des missionnaires au loin encore. C'est l'heure de se réveiller. Éphésiens 5, 14, il dit la même chose. Éphésiens 5, 14. Dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il parle à des chrétiens. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On rachète le temps parce que la tendance, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on va s'en servir pour la vanité. On va s'en servir pour ce qui est, en fin de compte, mauvais. C'est pour ça que, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de racheter le temps, parce que les jours se perdent naturellement. On a cette tendance-là. Et le psalmiste, c'est simplement tout ce qu'il dit. On a cette tendance, et on a besoin donc de cette prière. Rends-moi la vie. Combien de temps est-ce qu'on passe dans la prière? Est-ce qu'on a cette soif? que Dieu agisse. Est-ce qu'on a cette soif de voir un réveil, de voir un temps comme la Pentecôte, où ce que les gens prennent à cœur la parole de Dieu et se convertissent. Et là, les réunions sont très fréquentées. Réunions d'enseignement, les réunions de prière, la table du Seigneur, et l'évangélisation, la parole de Dieu qui se répand avec puissance. Est-ce qu'on a une soif de voir ce jour-là? Ça fait... Maintenant, il dit, selon ta parole. Le besoin de la prière, oui, mais pas en soi. Si on prie sans vraiment s'attarder à sa parole, et d'ailleurs, il le dit dans Proverbe 28, 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Savez-vous que ça peut être une abomination de prier? Dieu qui dit, tu pries, c'est une abomination, j'en veux pas, je veux pas entendre tes paroles. Ben, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Il est complètement vain de dire et de faire beaucoup de prières, mais on ne s'intéresse pas à ce que lui a à nous dire. On ne le lit pas pour soi-même, peut-être, ou on le lit très peu. On le lit peut-être par routine, mais notre cœur n'est pas dedans, ou on ne le lit pas du tout. Les occasions de l'entendre prêcher, on en prend, on en laisse, ou on en laisse plus qu'on en prend, ou on en prend par habitude, mais on n'écoute pas à moitié. Mais Dieu connaît nos cœurs. Si on écoute attentivement, ou si on détourne l'oreille parce qu'on est distrait par autre chose. Mais Dieu le dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors c'est pour ça que c'est important de voir la fin du psaume 119, 25. Rends-moi la vie selon ta parole. Ah, c'est pas juste de faire des prières, je pense. Mais c'est de prier Dieu. On a besoin de ta parole, on veut la connaître et on veut la mettre en pratique. Parce que tu nous avertis aussi que de la connaître sans la mettre en pratique, ça ne sert à rien. On se rend plus responsable, on se rend plus redevable, et le jugement va être encore plus grand, parce qu'on connaîtra plus. Donc c'est important d'avoir ces trois choses. Entendre la parole de Dieu, la connaître, la croire et l'obéir. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Et quand on dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, on peut peut-être l'écouter comme un enfant écoute un parent parfois sans faire ce qu'il dit. Non, mais ce n'est pas de ce genre d'écouter que les parents veulent, n'est-ce pas? Quand un parent dit, écoute-moi, mon fils, ou écoute-moi, ma fille, ce n'est pas juste entendre mes paroles, n'est-ce pas? C'est l'écoute au sens de obéir. Et Dieu dit la même chose. Celui qui détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, ce n'est pas juste, on peut se satisfaire à entendre. Mais si on n'obéit pas, c'est se détourner. Donc quand Dieu dit si quelqu'un détourne son oreille de l'écoute de la loi, c'est ne pas le faire. Donc c'est important non seulement de la connaître, de la croire, mais d'obéir à la parole de Dieu. Et donc le psalmiste il est convaincu que la parole de Dieu, c'est vraiment ce qu'il a besoin. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est l'élément clé non seulement... Ce qui a donné la vie au psalmiste au départ, c'est la parole de Dieu qui régénère. C'est la parole de Dieu. Et ça, on a lu Pierre 1 au début du chapitre. Eh bien, là, un peu plus loin dans le chapitre, je vais vous lire l'extrait qui parle du fait que c'est la parole de Dieu qui nous régénère, qui nous fait venir à la vie. Il dit ceci. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par de l'or ou par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est la parole de Dieu, la vérité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité, est-ce que ça veut dire quoi? On a la vie éternelle en obéissant aux 10 commandements. On a la vie éternelle en obéissant à tous les commandements que Jésus a donnés. De donner la dîme, puis de semer les uns les autres, puis d'user du spirit. Non, mais c'est en obéissant à la vérité, la première chose que Dieu commande aux hommes, c'est repentez-vous et croyez. Et quand on obéit à la vérité, on obéit à se repentir et à croire, on accepte la vie éternelle. Ensuite, on comprend que l'obéissance, ce n'est pas pour gagner notre ciel, Jésus l'a donné comme un cadeau. Donc, il ne dit pas ici en obéissant à la vérité, comme si c'était on gagne notre ciel en obéissant. On obéit à se repentir et à croire que Jésus a tout payé. Comme il dit, c'est par son sang. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or, ce n'est pas par des dîmes, ce n'est pas par des offrandes, ce n'est pas par des œuvres qu'il dit ailleurs. Donc il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. En Guyane, on connaît une saison toute l'année longue, on peut planter et voir grandir une plante et recueillir des fruits ou moissonner des légumes. Mais là, il dit, c'est pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu, la parole de la vérité qui nous donne la bonne nouvelle de Jésus. Qu'en se repentant de nos péchés, en se tournant à Jésus, on a la vie. Et ensuite, avec cette vie, on est commandé à se faire baptiser, à s'aimer les uns les autres, à s'encourager, à faire connaître Jésus à d'autres, etc. Tous les commandements qu'il nous donne. Donc, c'est la parole de Dieu qui est tellement importante pour qu'on puisse devenir vivant et avoir la vie en Jésus. Mais ensuite, c'est la parole de Dieu qui est importante pour qu'on puisse être réveillé, qu'on puisse être vivifié, qu'on puisse être fortifié et devenir productif en tant que chrétien. Et c'est à ça qu'il réfère. Rends-moi la vie selon ta parole. Et il le dit dans Psaume 119 un peu plus tôt. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole? Comment est-ce qu'on va purifier notre sentier si on ne prend pas garde à sa parole? C'est sa parole qui va nous dire qu'est-ce qui se passe dans le cœur et quel chemin éviter, quel péché ôter de nos vies, etc. pour sa gloire. Il dit, psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Comment est-ce qu'on peut ne pas pécher contre Dieu? Il faut absolument serrer sa parole dans le cœur pour penser comme Dieu veut qu'on pense, pour agir en conséquence de ce qui est juste. C'est la parole de Dieu qui va nous sanctifier. C'est la parole de Dieu qui va nous vivifier. C'est la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Ce n'est pas mon idée ce matin que je vous communique, mais le besoin d'être réveillé selon la parole de Dieu. Vous savez, je vous le dirai franchement, l'Église est malade. Ce n'est pas qu'il y a des personnes qui assistent qui sont malades en ce moment. Ce n'est pas de cette maladie la physique que je parle. Mais on est malade, on est faible. Individuellement, tant qu'en groupe, on a cette tendance à la mort. Dites-moi, est-ce que l'Église ressemble à l'Église de Jérusalem après la Pentecôte? Est-ce qu'il y a une tonne de personnes pour faire toutes sortes de travail qui feront avancer? Acte 2 dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Et un peu plus loin, et par plusieurs autres paroles, ils les conjuraient, ils les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, passer du temps ensemble, dans la fraction du pain, prendre et observer la table du Seigneur. Et dans les prières, aux heures de réunion de prière, ils allaient être là. Ils allaient aussi être dans leur temps de prière individuel, en secret. Mais pensez, est-ce qu'on vit des jours comme ça? Vous savez, à travers l'histoire de l'Église, il y a eu des moments comme ça à différents temps. Et je peux vous dire que ces différents temps-là où ce que Dieu a visité spécialement, où ce que Dieu a réveillé l'esprit de son peuple, est-ce que Dieu a réveillé l'esprit d'un peuple tout autour pour se convertir, etc. Il y a eu des temps de prière pendant parfois des décennies pour Dieu, Dieu. On veut voir un réveil. Et c'est pour ça qu'on doit s'encourager les uns les autres et individuellement être comme ce psalmiste, dire « Hey, Dieu, tu m'as ressuscité avec Jésus-Christ, mais mon âme prend la poussière, prends-moi à la vie selon ta parole. Seigneur, aide-moi de revenir constamment, de me forcer de revenir à mémoriser ta parole et de la mettre en pratique. Aide-moi constamment à revenir, à réfléchir selon ta parole. » Parce qu'on a besoin que tu nous vivifies, Seigneur. On a tendance à se relâcher. On a tendance à ne pas s'impliquer. On a tendance à manquer à l'appel. On a tendance à la mort. Oh, combien on a besoin d'un réveil. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait relire Actes chapitre 2 à notre réalité. Après avoir entendu ce discours, ils n'eurent pas le cœur vivement touché. Et ne dire pas grand-chose à Pierre et aux autres apôtres. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, très peu professent même de vouloir venir à lui. Et ceux qui professaient ne persévéraient pas grandement dans l'enseignement des apôtres. Ils n'étaient pas très réguliers dans la communion fraternelle. Ils ne prenaient pas régulièrement la table du Seigneur dans la fraction du pain, et souvent ils s'en abstenaient, et peu s'assemblaient pour persévérer dans les prières. On pourrait dire ça. Ça, c'est la tendance, chacun de nous en a naturellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un réveil, que Dieu puisse toucher nos cœurs, qu'on puisse avoir un cœur vivement touché, et qu'on puisse y répondre. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, d'y répondre en se convertissant, et ceux qui ont professé, de dire « Ah, maintenant je veux persévérer dans l'enseignement des apôtres, je veux persévérer dans la communion fraternelle, je veux être là pour la table du Seigneur, je veux être là dans les prières. » Et qu'on puisse voir un réveil. Oh Dieu, aie pitié de nous, parce que on tend, notre âme tend à la poussière. On va prier. Seigneur Dieu, ta parole est la vérité, Seigneur, tu connais notre tendance naturelle. Tu connais la tendance du sel à perdre sa saveur. Combien l'Église, à travers le temps, n'ont plus de témoignages. Ils ne font qu'une religiosité de pratique, de tradition, mais il n'y a plus de vie réelle. Seigneur, individuellement aussi, Seigneur, combien c'est facile. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous réveiller individuellement aussi, autant qu'en groupe. Et on te prie aussi que tu puisses nous donner une force de pouvoir publier ta parole avec force, et avec grâce, avec sagesse, avec amour, et on te prie que tu puisses réveiller l'esprit, Seigneur Dieu, afin que les cœurs puissent être vivement touchés, et que les gens répondent et veulent vraiment te suivre avec force. Et donc, Seigneur, on te prie que tu puisses sonder nos cœurs, chacun. Seigneur, on te prie que tu puisses voir, est-ce que d'abord on a cru réellement en Jésus-Christ, parce qu'on a encore vraiment besoin de se convertir bibliquement, d'avoir une vraie relation avec toi, de reconnaître pour une première fois vraiment être perdu, de vraiment reconnaître pour une première fois être aveugle et être dans les ténèbres et être sous la puissance de Satan et vraiment être dans la mort et vraiment pour la première fois comprendre que Jésus a tout accompli une fois pour toutes. C'est lui qui a tout fait et on se confie dans son œuvre totale et parfaite. Oh Seigneur, pour ceux qui ne sont jamais venus à cela, on te prie que ce matin même ils puissent avoir un cœur vivement touché, et qu'ils puissent être brisés dans leur cœur pour leur propre incrédulité et leur propre péché, qu'ils puissent venir et de passer de la mort à la vie. Seigneur, comme tu l'as fait pour ceux d'entre nous pour qui tu l'as fait, mais Seigneur, on te prie aussi pour ceux pour qui tu l'as fait, Seigneur, qu'on puisse reconnaître notre tendance à la mort, et qu'on puisse vraiment avoir un retour à la prière, mais un retour à la prière qui est centré sur ta parole, et l'obéissance à ta parole. Sonde nos cœurs, regarde là où on se dévie de ta parole. Seigneur, vivifie-nous, on te prie. Seigneur, on te prie, aie pitié de nous. Seigneur, il y a des saisons favorables et des saisons non favorables, et on te prie, donne-nous une saison favorable. Visite-nous, Seigneur, touche nos cœurs, fortifie. Et Seigneur, ceux qui grandissent en toi, Seigneur, fortifie-les. Fortifie-nous, Seigneur, ensemble. Et Seigneur, donne-nous une saison favorable, on te supplie. Seigneur, on te prie que ta parole puisse être glorifiée dans les cœurs, afin qu'on puisse obéir à ta parole et te glorifier, Seigneur. Soit par la conversion, soit par une marche chrétienne qui est vivifiée et qui est réveillée, on te supplie au nom de Jésus. Amen.